Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Heureuse de vous retrouver pour les nouvelles du mois. Alors, nous sommes déjà en avril, mais je vais vous parler du mois de mars. Et bien sûr, mars évoque le printemps. C'est imparable qu'il pleuve, qu'il vente, que le soleil brille. Mars reste le mois des premières fleurs, des bourgeons qui éclatent, des pollens aussi, de plus en plus nombreux. Adieu les doudounes, les bonnets, les autres accessoires chauds, célébrons les oiseaux qui chantent et les jours rallongés. Même si la pluie s'est invitée, mais on l'attendait. L'inscription de l'IVG dans la Constitution, les premiers débats européens avant les élections ont primé sur les questions de transition écologique ce mois-ci. D'autant que financièrement, on l'avait vu le mois dernier, l'environnement dans le budget reste une variable d'ajustement. Et alors que l'UE annonce des besoins de 300 milliards d'euros pour l'adaptation. La science reste mobilisée sur le réchauffement climatique. Et à ce sujet d'ailleurs, le 19 mars, lors du colloque territoire d'eau à la salle Rabelais, Georges Fandose, agronome, élu de Saint-Aunès, tentait de remettre un peu les pendules à l'heure.
Et donc ce que je tiens à dire tout d'abord, c'est qu'on fait beaucoup d'agro-bashing, mais on ne se rend pas compte que les agriculteurs ont fait énormément d'efforts dans le sens de la préservation de l'environnement. C'est peu visible, mais au jour le jour, moi j'ai vu comment, avec des outils de pilotage de l'irrigation, avec le goutte à goutte, avec la lutte biologique, avec la plantation de haies, on a travaillé dans ce sens de l'agroécologie. Et donc, tous les agriculteurs ne sont pas à mettre dans le même pot. Hein. Il y a eu énormément d'efforts de fait, et je pense que c'est important de le souligner, parce que malheureusement, en milieu urbain, on ne connaît pas ces réalités-là. On a vite fait de porter des jugements à l'emporte-pièce sur le milieu agricole. Et mon intervention dans Le Monde, c'était aussi pour dire qu'il ne fallait pas exaspérer les agriculteurs, qu'ils étaient souvent dans des impasses techniques et que c'était les premiers à être exposés, par exemple, aux pesticides. Et donc, s'ils ne demandaient pas mieux que de faire d'autres solutions. Et malheureusement, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a beaucoup travaillé le chimie, mais on a peu travaillé les alternatives. Et je crois qu'il y a une responsabilité politique à ce niveau-là qui nous pèse lourd, quoi. Et en tout cas, ce qui est très maladroit de la part des élus, c'est d'annoncer la réduction de 50% des pesticides comme ça, de but en blanc, alors qu'on savait très bien que ce n'était pas possible à court terme et que même si c'était un effort qu'il fallait porter, ça ne pouvait pas se faire de manière comme ça, en claquant des doigts. Et donc, ça a entraîné pas mal de mécontentement, d'incompréhension. Et je pense que ça, c'est le genre d'annonce qu'il faut éviter, parce qu'il faut être dans la réalité et voir qu'est-ce qui est possible de faire et quels sont les moyens qu'il faut afficher pour cela. Donc, je pense que c'est un peu ça qui explique l'exaspération et la crise agricole et tout ce qui s'est passé ces derniers temps.
Alors voilà, et ben cette petite mise au point était nécessaire parce que nous avons le mois dernier beaucoup parlé de cette crise agricole et peut-être que le témoignage de Georges Fandose était nécessaire. Alors, au menu de cette émission, nous allons fêter les oursinades et observer cette curieuse invasion de vélettes. La sécheresse est toujours là, malgré les récentes pluies. Enfin, pouvons-nous croire à la fin des moustiques-tigres dans nos régions ? Je reviendrai aussi sur l'histoire d'un golfe qui vient troubler un peu plus encore les Pyrénées-Orientales. Et puis le mois dernier, après avoir vu les effets délétères sur l'Ukraine, la guerre et ses conséquences, nous verrons les conséquences sur l'environnement en Russie ce mois-ci. Un mauvais vent souffle sur la municipalité qui peine à sortir de ses déchets. Et puis enfin, nous finirons par des nouvelles du front des écureuils. Donc, Donc, retour sur les oursinades, qui sont de plus en plus nombreuses. J'espère que vous avez pu en profiter de Marseille à Perpignan. Une nouvelle fête à l'occasion d'un produit retrouvé. On compte plus de 100 espèces d'oursins réparties en 70 familles. Ils vivent posés sur le fond marin où ils se déplacent sur leurs piquants qui sont articulés à leur base. L'oursin est l'une des proies préférées des homards, de certains crabes, des poissons balistes, de la loutre de mer et des poissons-loups. Anciennement, de sa barque ou de son pointu, le pêcheur professionnel repérait les oursins sur les fonds de l'eau. Il utilisait alors un filet qui servait à décrocher les oursins des fonds rocheux ou des posidonies et il le traînait derrière la barque. Mais cette pêche a été interdite car elle était trop dévastatrice. Une autre technique de pêche fut employée par les anciens. Elle consistait à ramasser les oursins depuis la barque et par temps calme à l'aide d'une crampe ou d'une grappe à oursin, un espèce de crochet double, au bout d'une longue perche en bois. On utilisait un carreau miroir ou un seau vitré pour voir les fonds. On pouvait également répandre un peu d'huile en surface, ce qui permettait d'aplanir la mer et de voir le fond. Actuellement, aujourd'hui, les pêcheurs amateurs utilisent le masque, les palmes et le tuba. En apnée, le bras armé d'une grappe, ils détachent les oursins à même le fond et les récoltent dans un filet. Les suivis du parc marin de la Côte Bleue indiquent qu'en 16 ans, les densités d'oursins ont diminué de 4 oursins par mètre carré en moyenne, au moins un oursin par mètre carré, comme le soulignent les derniers comptages datant d'avril 2023. Une baisse due à la surpêche et au braconnage, à l'augmentation de la température de l'eau avec la modification du plancton. Pour éviter la disparition de l'oursin comestible en Méditerranée française, les autorités ont limité les dates de pêche. Et la poutine ? La poutine, oui, ici on en mange, et on mange encore des alevins, de tout petits futurs poissons, qui sont pêchés pendant 2 mois au tout début du printemps. Une pêche traditionnelle, très réglementée quand même. Cette tradition est autorisée 45 jours par an. Elle n'est pas encore interdite, selon les vœux de certains. La poutine est constituée de très jeunes poissons, comme des alevins de sardines. On la surnomme le caviar de Nice. Les professionnels de la Côte d'Azur sont les seuls en Europe a bénéficié d'une dérogation pour pêcher ces alevins jusqu'à mi-avril. Et afin de préserver l'espèce, ils ne peuvent pas en prélever plus de 50 kg par jour et par bateau. 50 kg, de ce qu'il ne sera jamais un poisson tout de même. Restons dans le milieu marin. Vous avez sans doute vu en images ou sur les côtes, en vous promenant, ces masses bleues-violettes. Ce sont des vélèles, des petits organismes de la même famille que les méduses, moins urticantes. Les vélèles vivent à la surface entre l'air et l'eau. Elles ont de petites voiles qui leur permettent de rester en mer. Habituellement, on les voit rarement, seulement quand le vent s'inverse, comme ce fut le cas le week-end dernier. Cette petite voile se retourne et elles se font emporter jusque sur les plages. En plus de glisser un peu et de prendre de la place sur la plage, elle dégage une forte odeur durant 3 ou 4 jours. Une odeur qui ne plaît pas toujours aux estivants. Mais enfouissez-les surtout. Ne les jetez pas. Elles servent de nourriture à plus gros qu'elles. Vraiment, la Terre tourne boule. Le calendrier a été bouleversé avec l'apparition des événements cévenols au printemps, en lieu d'automne. Si les Cévennes ont été copieusement arrosées, le Languedoc-Roussillon, trop peu. Et les risques de sécheresse, cet été, perdurent. Et ce n'est pas parce qu'on aura plus de sécheresse que l'on n'aura pas d'épisodes intenses de ruissellement. Désormais, il va falloir travailler sur les sécheresses estivales chroniques et en même temps, renforcer les mesures de lutte contre les inondations. Ruissellement et crue ne sont pas le même phénomène. Les sols cultivés, même secs, absorbent l'eau quand il pleut fort, alors que les sols urbains, bétonnés, goudronnés, laissent couler l'eau en torrent. moustiques, alors? Eh bien, ils sont déjà de retour dès le mois de mars en Occitanie. La sécheresse aura-t-elle raison des moustiques tigres qui empoisonnent nos étés? Le moustique tigre pique les êtres humains et peut être vecteur de virus comme ceux de la dengue, du chikungunya ou du zika. Originaire des forêts tropicales, d'Asie du Sud-Est, le moustique tigre s'est adapté à divers environnements et notamment au milieu urbain. La femelle pond dans toutes sortes de récipients et de réservoirs d'eau artificielle. Des vases, des pots, des fûts, des bidons, des rigoles, des avaloirs pluviaux, des gouttières, des vieux pneus. Une femelle moustique pouvant pondre plusieurs centaines d'œufs à chaque ponte et les femelles de certaines espèces pouvant effectuer plusieurs pontes durant leur vie. Bien sûr, l'effort d'élimination des lieux de ponte est essentiel. En Espagne, les moustiques tigres sont en régression. Les températures élevées, la sécheresse persistante, le manque d'eau rendent difficile la reproduction des larves dans Barcelone. La ville enregistre une baisse de 20% chaque année en raison du manque d'eau. Cette bonne nouvelle a été annoncée par le dernier rapport de l'Agence de santé publique de Barcelone. Et pour préserver la ressource en eau, la municipalité a notamment fermé les fontaines de la ville. En France métropolitaine, en 2023, le moustique tigre était implanté dans 71 départements. Particulièrement résistant, adapté à l'environnement humain, il se développe préférentiellement dans des environnements périurbains ainsi que dans des zones urbaines très denses. La saison active du moustique tigre dans les climats tempérés débute aux alentours de fin avril, début mai, et dure jusqu'en octobre ou début novembre. Alors, retour sur une affaire dont on a déjà un peu parlé. Le projet de construire un golf dans le village de Villeneuve de la Rao fait monter la colère des habitants, alors que la région, malgré quelques pluies ces derniers jours, reste menacée par la sécheresse et de possibles restrictions d'eau. Or, les golfs sont gourmands en eau. Ils nécessitent un arrosage régulier des surfaces d'herbe qui entourent les trous. Le 16 mars, une vingtaine d'associations, partis politiques, collectifs, ont manifesté à Villeneuve-de-la-Rao, à quelques kilomètres de Perpignan. Objectif ? Protester juste en face du chantier, fraîchement entamé du nouveau golf, qui va être arrosé 160 hectares et qui est un luxe difficilement imaginable au moment même où la région fait face, y compris en plein hiver, à un déficit de pluviométrie historique et à plusieurs records de chaleur. 92 scientifiques se sont opposés au projet. Ils qualifient d'hors-sol, d'emblématique d'une vision dépassée. Mais la maire, Jacqueline Niriès, ne recule pas. Ce nouveau golf sera arrosé entièrement avec les eaux récupérées par la station d'épuration, nous dit-elle, soit 1 million de litres d'eau qui seront valorisés chaque jour. Et l'avocat de l'association Écologie Pays Nat Catalan conteste. Tantôt, on nous dit qu'on prendra l'eau du lac, de Villeneuve-de-la-Rao, dit-elle. Tantôt, on nous dit que ce sera l'eau du canal qui permet aux agriculteurs d'arroser. Tantôt, qu'on recyclera l'eau de la station d'épuration. Aujourd'hui, on ne sait plus. Les chercheurs rappellent quant à eux que la situation actuelle de stress hydrique ne doit pas être considérée comme exceptionnelle par rapport aux années passées, mais bien comme la norme basse des années à venir. Le village aura sans doute d'autres conflits à vivre quand il va s'agir de partager l'eau rare entre le golf et les viticulteurs. Le mois dernier, j'évoquais également à ce micro les deux années de guerre en Ukraine et les relations entre guerre et environnement. La Russie subit également le contre-coup de la guerre. On a parlé le mois dernier de l'Ukraine. Mais entre une économie militaire et l'environnement, la Russie a fait son choix. Les émissions industrielles ont augmenté dans le pays, tout comme les niveaux de pollution, entraînant des taux de mortalité par maladie comparables aux pertes sur le champ de bataille. L'État russe se classe au quatrième rang mondial en termes d'émissions de carbone, derrière la Chine, les États-Unis et l'Inde. Et même si ses responsables réaffirment fréquemment leur engagement en faveur de l'action climatique et de la réduction des émissions, les chiffres semblent démontrer le contraire. Les nouveaux plans environnementaux de la Russie suggèrent également de réduire la surveillance du respect des normes environnementales. Ainsi, en 2022 et en 2023, le gouvernement a suspendu les inspections en matière écologique des entreprises. Ce moratoire a été imposé début mars 2022, presque immédiatement après le début de la guerre en Ukraine. Cette mesure était alors officiellement justifiée par la nécessité d'alléger la pression sur les entreprises soumises aux sanctions. Le président russe a également exclu de son territoire certaines organisations environnementales internationales, notamment Greenpeace et le Fonds mondial pour la nature, que vous connaissez sous le nom de WWF. Au conseil municipal de Montpellier, tout a commencé le 13 janvier au cours du débat d'orientation budgétaire qui révéla le coût de l'échec historique de la politique de tri. Une nouvelle fois, la municipalité de Montpellier était secouée par la question des déchets. Il est clair que Montpellier exporte 4500 camions d'emballage aux quatre coins de la région et bien plus loin. Le tout pour un coût exorbitant de 26,4 millions d'euros, avec une facture déchets globale de 124,7 millions d'euros. Une facture qui a quasi doublé en 6 ans. Alors, la polémique enfle et sera sans doute au cœur des débats des prochaines municipales, puisque Michaël Delafosse s'indigne du fait que Montpellier est la seule métropole de France à ne pas avoir de solution pour traiter ses déchets sur place. Le journal métropolitain pose correctement la question. Cette situation serait-elle la conséquence des errances du passé et des erreurs du début de ce mandat? À qui la faute? À Georges Frêche, lequel s'était laissé convaincre par les Verts de construire l'usine de méthanisation Améthyste, dont on savait qu'elle ne marcherait pas, tacle l'élu PCF, Hervé Martin, à Jean-Pierre Moure, qui a choisi de faire l'autruche, à Philippe Sorel, qui a décidé fin 2019 de fermer le troisième casier de l'impopulaire décharge de Castries, sans anticiper la moindre alternative, ou bien à Michaël Delafosse avec le virage zéro déchet promis en 2020. Eh bien, la responsabilité dans ce fiasco est sans doute collective. Quoi qu'il en soit, avant même de voter le budget en avril, les élus de la métropole vont devoir faire un choix d'avenir. Sera-ce le CSR, dont l'équipe d'ELV pense le plus grand mal et dont Jean-Louis Roumégas vous a parlé la semaine dernière? Les options pour pallier l'urgence ne se bousculent pas. La stratégie zéro déchet ne payera pas avant 5 ou 10 ans. Or, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va bondir en 2024. Et n'oublions jamais que la ville de Montpellier compte chaque jour de nouveaux habitants. Mais est-ce plus clair à échelle nationale? La France s'est donné des objectifs à atteindre d'ici 2030. Réduire de 5% les déchets d'activité économique. Réduire de 15% les déchets ménagers et assimilés. Réduire de 50% le gaspillage alimentaire. Rappelons-le, la règle générale, il faut réduire les impacts environnementaux liés aux étapes de production, transformation, transport et utilisation des matières et produits qui génèrent des déchets. Et pour y parvenir, on peut agir à deux niveaux, soit en amont des déchets, avec des mesures prises par les fabricants et les distributeurs, avant qu'un produit ne soit mis sur le marché, ou bien en aval, par des mesures prises par les consommateurs finaux, par le consommateur final ou les collectivités territoriales pour réduire les déchets. Malheureusement, souvent l'effort porte sur les mesures qui peuvent faire disparaître le déchet, sans aborder suffisamment le changement de regard qui permettrait de réduire le déchet. La sobriété de la consommation, par exemple, la réduction des sources de gaspillage, ainsi que l'allongement de la durée d'usage des produits. C'est-à-dire, avant de remplir une poubelle, apprendre à considérer le déchet comme une ressource. Et cela, on en est encore loin. L'augmentation des déchets est essentiellement liée à nos modes de consommation, dont la multiplication des emballages et des efforts reste à fournir pour développer les vendeurs en vrac et réduire les emballages plastiques. Nos objectifs de réduction ont été fixés à moins 10% en 2020. Nous sommes en 2024 et nous sommes seulement à la moitié, c'est-à-dire à moins 4,6%. Quelques nouvelles du front des écureuils de l'A69. Ils n'ont pas complètement gagné, mais un petit sursis leur a permis de descendre de leur arbre et de regagner ceux de Strasbourg devant le Parlement européen. Ils ont posé pied à terre, après 39 jours d'occupation des arbres qui bordent cette route que la région Occitanie voudrait transformer en autoroute, entre Toulouse et Castres. Ils affirment avoir obtenu des garanties sur la préservation des arbres. Ils ont été accueillis en bas par plus de 200 opposants, sous l'œil attentif de plusieurs dizaines de gendarmes. Les arbres ne pourront pas être abattus avant septembre, après la venue récente sur les lieux de fonctionnaires de l'Office français de la biodiversité, l'OFB, qui attestent que le site est protégé jusqu'au 1er septembre. Les opposants à l'A69 militent pour une suspension des travaux et en attendant qu'un retour au fond contre le projet soit examiné par la justice administrative. Une deuxième ZAD a été créée il y a peu, un peu plus d'un mois, à quelques kilomètres de la crème arbre. Le rapporteur de l'ONU, Michel Forst, a joué un rôle important. Ce rapporteur a été nommé en 2016 à New York, mais sa mission finalement s'est sur le terrain qu'à partir de 2019. Sa mission consiste à être plus vigilant sur la manière dont les défenseurs de l'environnement agissent. Les journalistes, pendant toute la durée de l'événement d'occupation, ont été parqués par les forces de l'ordre dans un ravin, d'où ils ne pouvaient prendre d'images satisfaisantes. France 3 a porté plainte. Le rôle de Michel Forst consiste à faire comprendre aux gouvernants qu'on ne peut utiliser sans conséquence certains termes. Quand on balance de la soupe sur une vitre ou qu'on lutte contre une méga-bassine, on n'est ni un terroriste, ni un Khmer, ni un taliban. Trop de militants sont condamnés en France, en Italie, en Allemagne ou en Grande-Bretagne au nom de ces lois nouvelles advenues avec le terrorisme. Les défenseurs du climat ne sont pas des terroristes et souvent, les États, en les emprisonnant, ne respectent pas eux-mêmes les accords qu'ils ont signés sur la liberté de la presse, par exemple, sur la loi d'Aarhus en 1988. Un rapport est en cours d'élaboration à l'ONU. Il sortira malheureusement après les élections européennes et définira ce qu'est la désobéissance civile. Pour Michel Forst, cela répond à quatre critères. Un acte par lequel un militant doit lutter contre une loi qu'il juge inadéquate avec le bien commun. Défendre une cause, d'une manière non violente, et dans la sphère publique. C'est-à-dire que ça ne peut pas se faire dans votre jardin. Il faut que tout le monde puisse voir votre action. Il est là également pour rappeler le droit international. Et il est regrettable de voir un rapporteur de l'ONU intervenir en France contre les répressions, comme l'on l'intervient dans certains pays pour le respect des droits de l'homme. bientôt nous serons appelés à voter aux européennes. Et rappelons-nous que l'Europe a permis des progrès en matière de gestion des territoires ou d'être au plus près de la nature. Il faut poursuivre, éviter les effets yo-yo, éviter qu'une crise chasse l'autre. Les acquis de l'UE, par exemple, dans la mise en œuvre du Pacte vert, envisageant une trajectoire écologique pour les années à venir, ne peuvent être remis en cause par des intérêts de court terme. Les élections européennes portent la lourde responsabilité de la poursuite ou non du Pacte vert.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.